Vous écoutez, on lit pour vous.
Est-ce possible de se faire voler sa maison? Un texte d'Éducaloi, paru le 1er mars 2025 dans Virage. Se faire voler sa maison, c'est possible? Eh bien, selon des données de 2022, la société d'assurance First Canadian Title, FCT, évalue à 350 millions de dollars les montants des fausses ventes immobilières. Vendre une maison qui ne leur appartient pas est très complexe pour les voleurs, mais c'est aussi une fraude très lucrative. Assurez-vous de bien connaître le phénomène pour vous en protéger. En 2022, des fraudeurs ont vendu une maison à Toronto à l'insu des propriétaires installés à l'étranger. Mais comment font-ils pour se faufiler à travers tant de mécanismes de sécurité? Usurper votre identité. La première étape pour les fraudeurs consiste à trouver la bonne maison et les bons propriétaires. Les personnes mal intentionnées vont privilégier trois aspects. Les propriétaires sont à l'extérieur du pays, la maison est allouée, la maison n'est pas hypothéquée. Supposons que votre propriété correspond à ces critères. Les fraudeurs se font passer pour des personnes qui souhaitent louer les lieux, ce qui leur permet d'occuper la maison. Ils la mettent ensuite en vente sans que vous le sachiez. Les futurs acheteurs ne se doutent pas que ceux qui leur ouvrent la porte pendant les visites sont de faux propriétaires. Une fois la promesse d'achat signée, le processus suit son cours jusqu'à la signature de la vente chez le notaire. Armés de fausses pièces d'identité à votre nom, les fraudeurs signent l'acte de vente, reçoivent l'argent de la transaction quelques jours plus tard et disparaissent dans la nature. Ce n'est que lorsque vous revenez de l'étranger et tombez sur les nouveaux occupants que tout le monde s'aperçoit de la fraude. Une petite astuce pour vous protéger. Les fraudeurs développent de nouvelles techniques chaque année pour parfaire leur stratagème, mais vous pouvez leur rendre la tâche beaucoup plus difficile grâce à un simple truc. Chaque propriété au Québec est inscrite au registre foncier sur lequel on retrouve toutes les opérations immobilières depuis environ 150 ans, y compris les hypothèques. À la demande du propriétaire, quand l'hypothèque est à zéro, les institutions financières signent un document que l'on appelle une quittance et dans lequel elles déclarent que l'hypothèque a été entièrement payée. Ce document est envoyé au registre foncier et il apparaît sur la fiche de l'immeuble consulté. Ainsi, quand les fraudeurs voient que l'hypothèque a fait l'objet d'une quittance, ils savent que l'institution financière ne sera pas alertée pendant la transaction, ce qui maximise leurs chances de vous frauder. À l'inverse, si votre hypothèque est à zéro, mais qu'il n'y a pas eu de quittance, elle est toujours affichée comme étant active au registre. Ce texte d'Éducaloi vous est offert à titre informatif. Il ne constitue pas un avis ou un conseil juridique. Il est recommandé de consulter une avocate, un avocat ou un ou une notaire pour un tel avis. Éducaloi est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'informer juridiquement la population québécoise de leurs droits et obligations dans un langage clair. L'information contenue dans ce texte est valide en date du 10 janvier 2025. C'était « Est-ce possible de se faire voler sa maison? » Un texte d'Éducaloi paru le 1er mars 2025 dans Virage.
L'actualité verte de la semaine, un texte de Daphné Cameron, paru le 17 mars 2025 dans La Presse. Sélection de nouvelles environnementales d'ici et d'ailleurs. Quiz. Dans les trois dernières décennies, le niveau moyen des mers sur Terre s'est élevé de 10 cm, a indiqué la NASA. Quelle était la principale cause de cette hausse en 2024? A. La dilatation de l'eau de mer due à la chaleur. B. La fonte des glaciers. C. La fonte des neiges éternelles. D. Les gens qui prennent des douches trop longues. Réponse. La montée des eaux est une conséquence directe du réchauffement climatique causé par l'homme. Cette hausse de température provoque à la fois la fonte des glaciers et des calottes polaires, ce qui accroît les apports d'eau douce vers la mer, et la dilatation de l'eau de mer. Ces dernières années, la montée des eaux observées était causée principalement par le premier phénomène et, dans une moindre mesure, par le second, a expliqué la NASA. Mais la tendance s'est inversée en 2024, alors que les deux tiers de l'élévation du niveau de la mer s'expliquaient par la dilatation thermique, d'après l'agence France-Presse. Des fleurs pour les abeilles de Montréal. Les abeilles sauvages sont en déclin dans le monde. Fait encourageant, une analyse terrain menée à Montréal par des chercheurs de l'Université Concordia montre qu'on peut leur donner un coup de pouce en plantant une grande variété de fleurs. Selon leur étude, publiée dans Ecological Applications, les populations d'abeilles vont mieux lorsqu'elles ont accès à une grande diversité dans la taille et dans la forme des corolles, la partie d'une fleur formée par ses pétales. Pour dresser ce constat, 2000 échantillons ont été récoltés sur 16 sites dans l'île de Montréal. Ukraine, inondations inquiétantes. Les conflits armés peuvent avoir des effets dévastateurs sur l'environnement, comme le démontre la destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka durant l'invasion russe en Ukraine. En plus de bouleverser les écosystèmes environnants, cette spectaculaire inondation survenue en juin 2023 a relâché des métaux lourds dans l'environnement, prévient une étude qui vient d'être publiée dans Science. Ces polluants, qui s'étaient accumulés dans les sédiments au fond de réservoirs, posent des risques à long terme pour l'humain, car ils sont difficiles à éliminer. Les chercheurs proposent une solution, la bioremédiation, une approche qui consiste à utiliser des plantes pour absorber ces polluants. Les GES menacent des satellites. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, GES, dans l'atmosphère pourrait grandement réduire le nombre de satellites qui pourront être en orbite autour de la Terre. Selon une étude de modélisation parue dans Nature Sustainability, d'ici 2100, jusqu'à 66% de moins de satellites pourront s'y retrouver de manière sécuritaire entre les altitudes de 200 km et 1000 km. Dans les faits, l'effet de serre causé par l'accumulation de GES contracte la haute atmosphère terrestre. Conséquence, les débris spatiaux y sont emprisonnés plus longtemps, ce qui augmente le risque de collision. Plaidoyer pour la corde à linge. Faire sécher ses vêtements à l'air libre est bon pour le portefeuille, mais aussi pour l'environnement. En plus de représenter 3 % du budget d'énergie résidentielle annuel, les sécheuses émettraient 27 millions de tonnes de CO2 par an aux États-Unis, indique une étude de chercheurs de l'Université du Michigan. Le bilan GES est plus lourd chez nos voisins du Sud, car une bonne partie des appareils sont alimentés au gaz. Les chercheurs proposent une solution intéressante pour ceux qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas, hiver oblige, abandonner leur sécheuse. Il est possible de réduire les émissions de 8 % lorsque l'appareil fonctionne la nuit, hors des heures de consommation de pointe. C'était l'actualité verte de la semaine, un texte de Daphné Cameron, paru le 17 mars 2025 dans la presse.
La patinoire du Vieux-Port de Montréal ferme définitivement. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 5 mars 2025 dans Le Devoir. après avoir offert 33 hivers de glisse aux Montréalais et aux touristes, l'emblématique patinoire du Vieux-Port de Montréal ferme définitivement le 9 mars 2025, faute de moyens pour entretenir ses installations malmenées par les changements climatiques. C'est une décision difficile que le Vieux-Port prend, a indiqué par courriel au Devoir la responsable des relations publiques du Vieux-Port de Montréal, Flore Bouchon, confirmant la nouvelle rapportée plus tôt par le Journal de Montréal. Ce sont des considérations financières et environnementales qui ont poussé l'organisme à prendre une telle décision. Madame Bouchon explique que les conditions météorologiques extrêmes des derniers hivers ont mis à rude épreuve leurs équipements. Les variations rapides de température, du gel au dégel, rendent le maintien d'une surface glacée de qualité très difficile. Malgré les investissements réalisés pour la réparer, les infrastructures construites en 1992 arrivent en fin de vie, précise-t-elle. La patinoire située au pied de la Grande Roue était justement fermée mercredi le 5 mars 2025 en raison de la pluie. En 2024, la patinoire avait également dû clôturer sa saison plus tôt, au début du mois de mars, en raison des températures trop clémentes pour assurer une bonne qualité de la glace aux usagers. Des pertes d'emplois. La Société du Vieux-Port soutient que les employés touchés par cette fermeture soudaine seront relocalisés au sein de l'organisation. Du côté du syndicat des employés du Vieux-Port, on parle plutôt d'une quinzaine de pertes d'emplois. Ce sont surtout des étudiants qui travaillent à la patinoire. Ils ont des contrats saisonniers et reviennent chaque année, explique le président du syndicat, Moussine Madji. Ils vont pouvoir appliquer sur d'autres postes au Vieux-Port, mais en fonction de leur ancienneté et de leur expérience. Autant dire qu'ils n'auront pas un emploi assuré. S'il reconnaît avoir constaté une baisse de l'achalandage à la patinoire depuis la pandémie de COVID-19, Moussine Madji a du mal à comprendre la décision de la fermer définitivement. C'est un lieu emblématique à Montréal. Les gens aimaient venir y patiner. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on a vraiment cherché à sauver cet endroit. Laisse-t-il tomber? De nouvelles activités hivernales? La Société immobilière du Canada, SIC, qui possède les lieux, s'est dite quant à elle prête à envisager de nouvelles possibilités d'activités hivernales au Vieux-Port, sans préciser si un plan précis de remplacement était déjà dans les cartons. La Ville de Montréal a pour sa part qualifié cette fermeture définitive de « malheureuse nouvelle », rappelant toutefois qu'elle met à disposition des Montréalais et des touristes de nombreuses autres patinoires, dont l'Esplanade, tranquille dans le quartier des spectacles. Nous participons aussi à la création de nouvelles patinoires comme celle dans le village et près de la Tohu. La patinoire du Vieux-Port, d'une surface de 2575 mètres carrés réfrigérée, avait ouvert au public pour la première fois en décembre 1992. Pour pouvoir y donner un coup de patin, il fallait toutefois débourser quelques dollars. Cette saison-ci, le prix d'entrée général s'élevait à 10,50 $. C'était « La patinoire du Vieux-Port de Montréal ferme définitivement », un texte d'Annabelle Caillou paru le 5 mars 2025 dans Le Devoir.
Haïti Histoire, la semaine est décavée. À propos de l'ouvrage « Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion », 3 de 7. Un texte de Leslie Péan, paru le 9 janvier 2025 dans Alter Presse. Apartheid et psychologie des dirigeants. Le masque du préjugé de couleur n'a pas fini d'humilier Haïti en l'appauvrissant et en la maintenant dans une misère absolue. En réaction à la peste du mulâtrisme, la jeunesse nourrie et pétrie au choléra du noirisme se trouve dans l'embarras, refuse de se regarder dans le miroir et prend la fuite dans l'émigration. En procédant à un traçage de l'absurdité et de la futilité du théâtre joué par une classe politique collée à Haïti comme une sangsue, bien des aspects méconnus ou peu connus de la politique des aïeux sont présentés. On pourrait en ajouter, en commençant par certains aspects du legs de Dessalines, qui n'ont pas été soulignés par nos historiens. Le premier est l'armée indépendantiste qui comportait un bataillon allemand et un bataillon polonais. Deux bataillons qu'on retrouvera tant au Cap-Haïtien en 1804 qu'à Marchand en 1805. Cette composante internationale de l'armée indigène indique en clair que la guerre de libération n'a pas seulement été une révolution nationaliste d'anciens esclaves, mais aussi l'aboutissement d'un mouvement antiraciste auquel ont participé, avec leurs idées et leur sang, des abolitionnistes de diverses nationalités, des partisans de la liberté et des défenseurs des lumières de l'humanité. Une vraie rencontre de solitude venant de différents peuples d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Haïti a ainsi représenté le phare d'une mondialisation progressiste balbutiante. Eddie Cavey affiche son âme et s'affirme. Son travail peut se comprendre comme un testament rédigé pour permettre à Haïti de jouer son va-tout en intégrant toutes les volontés capables de lui faire réussir le nécessaire bond en avant. Des antécédents existent, mais ils sont mal connus et sous-estimés. On peut nommer certains d'entre eux. Participation des Jésuites dans la préparation de la grande révolte du Bois Caïman des 21, 22 et 23 août 1791. Fourniture d'armes et de munitions par les Espagnols de la partie de l'Est pour alimenter cette révolte et affaiblir la France. Participation des officiers espagnols noirs Georges Biassou et Jean-François Papillon aux côtés de Bookman à la cérémonie du Bois Caïman. Les forces coloniales sèment la terreur, coupent les têtes de Bookman et du père Philémon, curé jésuite du bourg du Limbé, et les expose sur la place du Cap. Plus tard, le Jacobin, son Tonax, comprend la nécessité de faire triompher les libertés individuelles. Il donne, en 1796, aux nouveaux libres des milliers de fusils neufs qui aideront à constituer l'armée de Toussaint Louverture, ancêtre de l'armée indigène. L'appui accordé par les Américains dans la guerre du Sud, avec l'envoi de 5 bateaux qui bombardent Jacmel et d'autres villes contrôlées par André Rigaud, assurera la victoire de Toussaint. Le drame du pays commence avec le mulâtrisme de ses pères fondateurs qui tiennent à faire de Dessalines une doublure et il se poursuit dans le noirisme de ce dernier qui confisque au profit de l'État toutes les propriétés terriennes sous le prétexte d'améliorer le sort des Noirs dont les pères sont en Afrique. Sujet sans aucun doute très important. Noble intention ou masque populiste bien ajusté pour la promotion d'une élite noire? Dessalines ne manque pas de se servir au passage puisque, pauvre comme tous les jobs d'hier, il devient dès 1801, le riche propriétaire de 32 plantations de sucre qui lui fournissent des revenus annuels de plus de 100 000 francs chacune. Cet appel de Dessalines pour la promotion d'une élite noire devient le centre de gravité de la classe politique de pouvoir d'État. Gare à ceux ou celles qui oseraient soulever ce qui sera enfin un masque cachant la silhouette ou encore la réalité d'une habile supercherie. Il y a eu toutefois des exceptions à cette règle, notamment un Roger d'Orsainville, ancien chef de cabinet du président noiriste estimé, qui écrira avec courage en 1976 « Ce pays qui se déglingue de partout est le résultat de 30 ans de pouvoir noir. » Il dressait sur le noirisme du XXe siècle le même constat que l'historien mulâtre Thomas Madiou dressait de son temps sur le mulâtrisme du siècle précédent. Madiou devait affirmer en 1844 « Les mulâtres ont si mal conduit la charrette qu'ils l'ont jetée dans un trou, elle y restera. » n'en déplaise aux obscurantistes de tous bords, entre ces deux temporalités, 1844 et 1976, ces deux penseurs et hommes d'État ont compris l'être de l'étang, ce principe essentiel de la connaissance. Utilisant la parésia, le franc-parler qu'on trouve dans la démocratie athénienne d'Euripide à Thucydide, ou encore de Solon à Platon, extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion appelle à une transcendance, à une ontologie de nous-mêmes. Au centre de la problématique du besoin d'éthique, on retrouve les instruments conceptuels montrant que toute son argumentation est liée à l'idée de la recherche de la vérité. Conversion du sujet ancien, libre et nouveau libre, travail sur soi pour une transformation du moi. Illustration de cette franchise que Michel Foucault expose dans Le courage de la vérité. Et il n'y a pas de doute que lecteurs et lectrices goûtant au plat seront captivés par la saveur de l'argumentation présentée en vue d'un bouleversement d'ordre éthique. Vous écoutez Haïti Histoire la semaine Eddie Cavé à propos de l'ouvrage Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion 3-7. Un texte de Leslie Péan, paru le 9 janvier 2025 dans Alter Press. La tâche du rétablissement de nos rapports avec la vérité devra s'effectuer sur la période allant de la cérémonie du bois caïman à ce jour. Pour avoir déclenché ce processus de régénération, l'auteur aura gagné ses galons de parésiaste à la manière de Périclès, de Sénèque ou de Diogène. Et Haïti se donnera les moyens de sortir de sa précarité, car, comme l'explique Xi Yingkong, professeur chinois de relations internationales à l'université Renmin de Beijing, la pertinence avec laquelle une nation se critique et se fait critiquer sur le plan éthique fait preuve de la véritable grandeur de cette nation. Il faut éviter de s'estimer infaillible sur le plan moral. Les algorithmes à la base de la psychologie sociale dominante en Haïti viennent non pas de la décennie révolutionnaire de 1791-1803, mais des trois siècles précédents, c'est-à-dire de la période coloniale esclavagiste 1503-1803. Les dirigeants haïtiens agissent à partir des réflexes acquis à cette époque et qui se développent au rythme des malheurs qui accablent la société. Du temps de la colonie, on s'entretuait même entre parents. Le décor a été planté dès 1801 avec la condamnation à mort par Toussaint Louverture de son propre neveu, le général Moise. Très tôt, nos ancêtres ont pris l'habitude de trahir leurs supérieurs et autres frères d'armes, des pratiques censurées par la société. Ces pratiques disgracieuses font-elles partie de cet impropre ou dire évoqué par le philosophe et psychanalyste Willy Apollon? Les exemples sont éloquents avec la trahison de Toussaint Louverture par Dessalines, l'exécution de Charles et Sani de Bélair par un tribunal militaire dirigé par Clairvaux agissant sous la dictée de Dessalines, ou encore l'assassinat de Capois par Paul Romain sur ordre de Christophe. Dessalines sollicite l'appui de l'Angleterre pour éliminer les chefs congos. Sans souci, l'amour, d'errance, etc. Pour cela, il communique directement avec l'amiral Duckworth, commandant des forces navales anglaises, dans une lettre datée du 17 août 1803. Dessalines supplie cet amiral de lui envoyer les munitions qu'il lui avait déjà demandées dans sa lettre du 13 août 1803. Le 16 septembre 1803, Dessalines sollicite le soutien de Duckworth, car il commande personnellement avec son armée le siège de Port-au-Prince, tandis que les divisions des généraux Christophe et Clairvaux attaquent respectivement le Cap et les Congos de la montagne qui alimentent en partie cette ville. On peut penser que Dessalines mène une politique sans foi ni loi, mais en fait, il est guidé par l'éthique révolutionnaire et convaincu que sans armes et munitions, il ne pourra émanciper ses frères et sœurs. Ainsi, il sollicite de l'amiral l'appui des forces navales anglaises. Il écrit « Votre Excellence rendrait à mon armée un service signalé dont je lui serais particulièrement reconnaissant. » Les élites ont plutôt gouverné pour elles-mêmes, à partir de l'éthique de conviction selon laquelle ce sont elles et leurs pères qui ont réalisé l'indépendance et littéralement façonné ce coin de terre. Sans tenir compte du fait que notre héritage culturel a des ferments de pourriture venant à la fois du pire de l'Afrique et du pire de l'Europe qui se sont rencontrés sur notre bout de terre. Puis, elles ont laissé le pays s'enfoncer dans un trou béant. On changeait de camp, avec tout ce que cela comporte d'énigmatique et de dramatique. Le pire est que, par peur de la vérité, ces volte-face ne font l'objet d'aucune introspection et d'aucune pensée articulée. « Tuvum sedo », dit-on. L'opération « Bas les masques » vise à combler cette lacune. Le mois de travail de Chariron contre la nuit de Boiron-Tonnerre. Tout semble s'inscrire au commencement d'Haïti pour faire redécouvrir Jean-Jacques Chariron, notre Cassandre. Il avait compris dès le 31 décembre 1803 que les généraux étaient en train de créer une société à faire du mal. Il est arrivé à cette prophétie en observant le comportement absolutiste des généraux, la veille de la proclamation de l'indépendance. Avec une bonne dose de concision, l'analyse porte sur l'état d'anesthésie et de paralysie de la société haïtienne. Cela se fait avec une grande perspicacité et à un rythme qui laisse transpercer un grand amour pour Haïti. Le point de départ de la démarche est la recherche du sens dans un univers confinant la pensée à un navrant dessèchement sur pied. La prise de conscience de cette léthargie conduit l'auteur à des cogitations très accomplies dans la dénonciation de l'horreur qui nous accable. À suivre. C'était Haïti Histoire, la semaine Eddie Cavé, à propos de l'ouvrage Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, 3 de 7. Un texte de Leslie Péan, paru le 9 janvier 2025 dans Alter Presse.